I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous passez un bon début de semaine? Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast, j'espère qu'il va vous faire du bien. J'espère que ça va vous mettre dans un bon mood. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je vous présente un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui fait un carton avec ses musiques, qui parle de peines d'amour, mais qui sont assez entraînantes, qui te restent dans la tête et qui te donnent envie de bouger, de chanter, de crier. Je pense que cet été, ça va être un carton. Bref, cet artiste, il s'appelle Freds. Il vient de Montréal, il a 22 ans, il est auteur, compositeur, interprète. On a passé un super moment ensemble. J'aime rencontrer des nouvelles personnes, comprendre c'est quoi ses inspirations, c'est quoi son processus créatif, pourquoi est-ce qu'il écrit ça, comprendre aussi son background. Et pour vous teaser un petit peu, dans cet épisode, on parle de santé mentale chez les hommes, de son enfance, de l'importance de ses études, de la France versus le Québec, de son incroyable succès en France, grâce aux réseaux sociaux. Ça traverse quand même l'océan Atlantique et c'est complètement fou. Et surtout, de son nouvel album qui est sorti il y a quelques jours, Demain il fera beau. Je pense que j'ai préparé quelques cool questions. Petit disclaimer, il a fallu que lorsque j'ai enregistré cet épisode de podcast, pour la première fois chez Universal Music France, avoir une bête d'opportunité comme ça, il a fallu que mon enregistreur de podcast plante. Les fichiers sonores étaient inutilisables. Je sais même pas ce qui s'est passé, on me dit que c'est un problème de carte SD. J'ai pas pu récupérer les bons fichiers. Cependant, par chance, ce jour-là, j'avais décidé d'apporter ma caméra pour filmer cet épisode de podcast. Le son n'est pas aussi bon, mais j'ai réussi à retrouver tous les rushs pour vous publier cet épisode parce qu'il était hyper chouette à tourner. Je trouvais que tout ce qu'on disait était cool, c'était un bon moment. C'est un exercice difficile, mais j'ai décidé de vous le publier comme ça et je suis très contente quand même du résultat. Je vous ai mis une petite musique en fond, j'ai testé un nouveau truc, vous me direz ce que vous en pensez. Soyez indulgents. Je pense que tous les podcasteurs passent par un événement pareil. J'ai sauvé ce que je pouvais sauver et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous parce que c'est le principal.
Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Fred.
Hello, ça va bien?
Ça va et toi?
Ça va super.
Je suis ravie de t'avoir. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps sur un podcast québécois que j'écoute.
Ok.
Prends un break.
Nice.
Je les adore. Franchement, on leur fait un petit shout-out parce que
ouais.
Je les adore. Dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu?
Alors, je m'appelle Fred, avec un Z à la fin. Je suis rappeur québécois et voilà, je fais du rap, de la pop, un peu de tout.
Aujourd'hui, on est chez Universal Music France qui m'ont proposé de faire un petit podcast avec toi pour en apprendre plus sur toi. Et il y a plusieurs sujets que j'ai hâte d'aborder. J'ai pu écouter ton prochain album.
Ah ouais, t'as déjà écouté?
Ouais,
nice.
Ouais, ouais. Vraiment, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé.
Nice, merci beaucoup.
Je te l'ai dit un peu, mais j'ai étudié à Montréal pendant 3 ans, vécu là-bas pendant 4 ans. Ça me manque beaucoup, donc quand Universal m'ont proposé de t'interviewer, j'étais en mode ça fait du sens parce que je pense qu'on a des choses en commun, genre sans le savoir. D'ailleurs, j'ai été dans tes abonnements Instagram pour voir si on avait des gens en commun. Et j'ai trouvé des gens qu'on avait
en
commun. Ouais, ouais.
À Montréal?
Ouais.
Ok, nice.
Il y a Ludo qui fait de la photo et de la musique aussi. J'adore.
Charlotte Ludo, qui fait mes photos de concert.
Il est vraiment cool. Adrian aussi, qui fait des clips vidéo. Je travaille avec un de mes bons amis Apache.
Oui, ben oui, bien sûr, Apache.
Apache, c'est un de mes tout bons amis. Bah, c'est ma gang à Montréal.
Ok, nice.
Adamo aussi, je le connais un petit peu.
Adamo. Tu as aussi un podcast d'ailleurs.
Ouais, et je l'ai regardé aussi.
Ok, parfait. Très, très cool. Bien documenté.
Et quand même. Enfin, finalement, je pense qu'on a beaucoup de gens en commun. On aurait pu
bien enseigné sur la scène culturelle québécoise, dis donc.
J'ai vécu là-bas 4 ans.
Ouais, quand même. 4 ans, c'est quand même.
Il y a un truc que j'aime bien faire avec certains de mes invités, c'est, là tu t'es présenté aux auditeurs de Simple Caféine, et j'aimerais bien que tu te présentes à Petit Fred. Donc que tu te parles à toi petit, et que tu te présentes à un petit garçon qui a, je sais pas, soit 4 ans, 6 ans, 12 ans, mais présente-toi à Petit Fred.
Eh bien, cher Petit Fred, probablement qu'à cet âge, tu voles encore des cartes Pokémon à tes amis. Tu vas devenir un chanteur, c'est quand même surprenant, parce qu'à cet âge-là, t'aimes pas ça. T'es pas du tout sur la scène, t'aimes plus, t'es plus discret, plus timide. Mais tu vas faire des concerts et tu vas vivre de ta passion. Voilà, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça.
Il y a l'accomplissement dit comme ça, c'est dingue, non?
Ouais, c'est vraiment, mais en vrai de vrai, moi à la base, je voulais vraiment pas être chanteur, je voulais vraiment pas faire de musique. C'était pas un truc qui m'intéressait nécessairement. J'étais plus en mode les sciences, puis voler des cartes Pokémon.
Tu rigoles, mais moi j'ai étudié dans un truc de science et maintenant je fais de la création de contenu sur les réseaux.
Oh, c'est quoi ton, en quoi t'as étudié?
J'ai étudié en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal.
Oh wow, ok.
Donc c'est de la psycho et des sciences ensemble, et un peu de...
Donc tu connais bien genre le cerveau des gens?
Ouais.
Ok.
Tu comme ça, c'est bizarre, mais...
J'avoue.
Ça faisait partie de mes études,
ouais. Ok. Waouh, intéressant.
Mais du coup, tu voulais pas faire ça quand t'étais jeune?
Non. Non, en vrai... En fait, moi, je faisais du cirque. Je fais beaucoup de cirque quand j'étais jeune. Et je voulais soit devenir quelqu'un qui fait du cirque. Je sais pas c'est quoi le terme. Un acrobate.
Ouais.
Ou alors devenir, c'est ça, dans les sciences, scientifique ou autre comme ça.
Genre dans la recherche?
Ouais, dans la recherche. Mais tu sais, à l'âge où j'étais, je savais pas encore c'était quoi la recherche. Mais tu sais, tu vois, j'aimais bien ramasser les choses en terre, analyser c'était quoi. Et puis à un moment donné, j'ai juste commencé à faire des prods de rap. J'étais comme, ah, j'aime bien.
C'était vers quel âge ça?
C'était à 16 ans.
Ok.
Donc ça fait 6 ans.
C'est ça, t'as quel âge là maintenant?
J'ai 22 ans.
Ok.
Voilà. Donc non, j'ai commencé en fait à faire des prods de rap dans ma chambre. Et moi je cherchais des rappeurs qui voulaient rapper sur mes prods. Je trouvais personne, donc j'ai essayé de le faire moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé.
C'est dingue. Et c'est... Où est-ce que t'as décollé? Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux?
Oui, certainement. En fait, c'est pendant la pandémie.
Mmh.
J'ai fait des vidéos. C'était grâce à Instagram. Je faisais des freestyles sur Instagram. Des vidéos d'une minute de moi qui rappe. Ça a plu à quelques personnes, donc ça partageait et tout. C'est comme ça que je me suis fait un public. Et après, j'ai mis TikTok. Et TikTok, ça a amené le projet un peu plus loin.
Ouais? Pourquoi? Comment ça? C'est quoi la différence entre... la portée qu'a eu Instagram versus TikTok pour toi?
TikTok, en fait, c'est les algorithmes. TikTok sont beaucoup plus puissants, on va dire, surtout à cette époque-là, donc il y a 4 ans. Moi, je mets pour la première fois une vidéo sur TikTok. D'habitude, tu sais, mes vidéos sur Instagram, je rejoignais peut-être 20 000, 30 000 personnes. Je me réveille un matin sur TikTok, genre 200 000 likes, j'ai 40 000 abonnés en l'espace de 24 heures, je comprends pas. Donc c'est vraiment TikTok, tu vois, ça a permis de rejoindre un gros public rapidement, on va dire.
Ok, c'est dingue, trop dingue. Mmh. Et t'as été... parce que là, on est en France, et je suis sûre qu'il y a pas mal de gens, potentiellement pas mal d'envieux au Québec, mais aussi pas mal de gens qui doivent se dire, en si peu de temps, comment ça se fait que t'es déjà sur la scène française, genre.
Mmh.
Qu'est-ce qui fait que t'es... Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui?
Ouais, ben, beaucoup de facteurs, mais déjà, je sais pas si ça a marqué, mais j'ai pas vraiment d'accent dans mes chansons.
Oui. C'est vrai.
Donc on va dire que là je me force pour bien te parler, parce que si tu veux je peux te parler en vrai québécois.
Mais moi je veux que tu me parles en vrai québécois, j'ai aucun problème. J'ai fait là-bas 4 ans,
j'oublie ça.
Beaucoup de gens.
Ok, tu sais quoi, je vais te parler vraiment en québécois.
Eh mais s'il te plaît, vraiment.
Je vais même glisser des expressions, et si tu les comprends, ça veut dire que vraiment tu
parfait. Fais... Quand t'es arrivé, j'ai failli dire bon matin. Mais je l'ai pas dit, je me suis dit quand même, il va peut-être se dire...
Pourquoi bon matin, ça se dit pas en France? Quoi? C'est le truc qui fait le plus de sens que j'ai vu de ma vie.
Ouais.
Bon matin.
Ouais.
On
et
est matin.
C'est doux aussi.
C'est doux. Mais vous dites quoi alors?
Salut. Enfin, on dit quoi? On dit quoi le matin? On dit
bonjour.
Mais c'est parce que bon matin, ça vient de good morning un peu, non?
Ouais, ça. Oui, oui.
Tu vois?
Oui, c'est vrai.
C'est la différence, c'est que les Français ouais. veulent pas traduire mot pour mot tout ce qui est anglais et le mettre en français.
Vous avez un peu la paresse en gros.
Ouais, exact.
Mais bon matin, oui, j'aime bien cette. Mais aussi. Est-ce que ça se dit allô ici? Vous dites allô?
Perso, je le dis, mais c'est vrai que ça se...
Ça se dit... À chaque fois que je le dis à quelqu'un, tu vois, je suis dans les couloirs, je l'ai dit 3 fois, et tout le monde est comme...
Limite, ils vont regarder si t'es pas au téléphone, genre.
Ouais, ok, c'est un truc de téléphone.
Ouais, okay. Exactement. Quand j'ai, genre, marre au téléphone, je vais lui dire allô, c'est tout.
Ok. Ok, je vois.
On parlait d'université et dans un des podcasts, je sais pas si c'est sur Prends un break ou sur le podcast d'Adamo, tu disais que t'étais encore à l'université.
Mm-hmm.
C'est quoi ce... Qu'est-ce que tu fais à l'université et pourquoi est-ce que t'as décidé de continuer justement?
Parce que en fait, moi, pour moi, l'université, déjà, j'aime beaucoup parce que c'est ma seule, c'est la vie normale, c'est mon. C'est... Autrement, je suis en studio et ça fait aucun sens dans ma vie pour moi d'être tout le temps dans une pièce ou donc de voir un peu des gens qui sont pas dans la musique, de rencontrer, prendre l'autobus, tu sais, c'est con, mais genre c'est ça qui me permet d'écrire des chansons accessible, c'est parce que je vis des trucs très accessibles aussi. Je vis la même chose que plein de gens. Donc j'aime ce pont avec la réalité. Puis aussi, mes parents voulaient que je fasse un bac. Un bac, ouais. Bac, c'est l'équivalent d'un diplôme universitaire. Je sais que vous, c'est avant, là. Mais c'est ça. Fait que là, je fais un bac. Et en plus, c'est en stratégie de production culturelle.
Ok.
Donc ça fait du sens. Ça se connecte. Avec le reste.
C'est trop bien. J'ai fait comme toi, c'est pour ça que j'ai continué.
Ouais, mais t'es encore à l'école ou...
Non, je suis plus à l'école, j'ai okay. eu justement mon bac à Montréal.
Ah bah félicitations.
Merci. Je l'ai eu début pandémie, moi, à ce moment-là. Et c'est cool.
Ouais.
Je pense que c'est important et comme tu dis, en vrai, en tant que créatif, quand la passion devient le métier, comme tu dis, tu t'es plus facilement enfermé entre quatre murs, tu vis moins de choses.
Mm-hmm.
Et c'est trop important de continuer de vivre des choses, donc je comprends tellement ce que tu dis, genre, et c'est... Il y a beaucoup de gens qui oublient cette partie-là, je trouve, même dans la création, tu vois.
Mm-hmm.
Le fait de pouvoir continuer de vivre des choses, rester accessible, comme tu dis, j'imagine que les gens s'identifient beaucoup dans tes musiques aussi par rapport à ça, tu vois.
Mm-hmm. Mais 100%, mais exactement. C'est super important de vivre des choses différentes. Il y a personne qui peut relate, qui peut connecter avec des paroles d'un monde d'artistes, parce que les gens sont pas des artistes, les gens sont des artistes, oui, mais plein d'autres choses, donc... Si tu veux qu'ils comprennent, faut que tu vives des choses normales. Puis des fois aussi, tu sais, moi je perds le fil là, quand je suis en tournée ou des trucs comme ça. Il y a rien de normal. Ça ramène aussi sur terre d'arriver dans une classe puis d'écouter un prof parler, même si la veille t'es en concert, ça va descendre un peu.
Puis surtout que je trouve qu'à Montréal, les gens s'en foutent vraiment. Donc ça veut dire que j'imagine que même si t'as une carrière, que ce soit un début de carrière ou peu importe, les gens te traitent de la même manière.
100%.
Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Je peux peut-être me tromper, mais...
Non, mais c'est vrai. Mais moi, juste comme je me promène dans la rue, par exemple, à Montréal ou à Paris, et à Montréal, les gens qui me reconnaissent... Tu sais, je le vois quand même quand les gens me reconnaissent. Ils vont rarement venir me voir. Ça arrive peut-être une fois sur 10 où ils vont venir me voir. Et quand ils vont venir me voir, c'est pas pour demander une photo ou un autographe. Ça va être juste pour dire « J'aime bien ce que tu fais ». Alors qu'en France, c'est beaucoup plus « On veut une photo, on veut un autographe, on veut quelque chose. » Tu sais, on va pas hésiter à déranger la personne. Mais moi, ça me fait plaisir, mais... Dans le sens qu'au Québec, on est hyper décontracté, respectueux. T'sais, notre plus grande star, elle peut facilement aller à l'épicerie ou dans la rue sans se faire accoster par des milliers de personnes comme ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une grosse différence entre le Québec et la France.
Ouais, t'as remarqué ça aussi? Cette culture du védétarisme, un peu, du védétarien. Hein.
Ouais, mais aussi cette culture de la vraie bienveillance. Je vais faire bientôt un épisode de podcast sur la pause bienveillance, parce que je trouve que le mot bienveillance est utilisé à tort et à travers. Et moi, ce truc-là de bienveillance, de respect, de personnes gentilles, je l'ai vraiment trouvé au Québec. Et ça me manque beaucoup en France.
Mmh. Genre, c'est vrai qu'on est vraiment gentils.
Vous êtes vraiment gentils.
Ou alors c'est vous qui ne l'êtes pas.
Non, je préfère dire que les Québécois sont vraiment gentils, ça me rassure plus. Et au niveau de ton processus créatif, justement, parce qu'on parlait du fait que t'avais besoin de vivre des choses, etc. C'est quoi pour toi quand t'écris un son? Genre un de tes sons qui va sortir dans ton album. Il sort quand d'ailleurs ton album?
Le 8 mars.
Wow.
2 semaines.
Wow, ah ouais, ok. C'est quoi ton processus créatif? Est-ce que t'en as un déjà?
Ça dépend, ça change tout le temps. Mais moi déjà, je suis incapable d'écrire. Tantôt, je parlais de studio, mais je suis incapable d'écrire en studio. Moi, j'ai besoin d'être dans ma chambre, dans les conditions les plus minimales possibles. Si possible, la veille, je me fais briser le cœur. Okay, ça, c'est la recette idéale. Okay. Donc la veille, il y a une fille que j'aime bien qui me brise le cœur. Le lendemain, je suis dans ma chambre et j'écris une chanson. Tu peux être sûr à 90% que cette chanson, je vais la kiffer. Puis je vais la sortir. Ça, c'est le scénario idéal. Par contre, dans les chances où personne ne brise le cœur la veille...
Puis j'espère pas pour toi, quand même.
Ouais, non, mais c'est ça. Ça fait beaucoup de brisages de cœur si on écrit un album de 20 chansons. Alors dans ce cas-là, je vais plutôt m'inspirer des histoires de mes amis, de personnes dans mon entourage qui vivent des trucs soit difficiles ou soit tout simplement intéressants et que j'ai envie de parler. Et donc je vais trouver un mot, souvent je vais trouver une phrase, c'est vraiment, je fonctionne avec des mots-clés. Et par exemple dans mon morceau « À ce qu'il paraît » que j'ai sorti il y a 2 ans, moi c'était « À ce qu'il paraît » c'était le petit mot qui m'intéressait, et après j'ai conçu un refrain autour de ça, donc « À ce qu'il paraît, tu vas pas revenir », »,« À ce qu'il paraît », c'est... Donc voilà, donc je cherche vraiment le mot-clé, et après je brode autour.
C'est cool. Mm-hmm. C'est cool. Je trouve ça hyper inspirant, parce qu'on est dans des métiers quand même très créatifs, et je trouve qu'on a tous, on peut tous apporter quelque chose, tu vois. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que t'écris...
Eh ben parle-moi du tien.
Tu vois, en vrai de vrai, moi c'est un truc qui me manque un peu, c'est depuis que je suis à Paris, je suis trop heureuse, je vis de ma passion.
Okay.
Mais par contre, je suis très enfermée dedans aussi. Et moi ce que j'aime justement, c'est rencontrer des gens, c'est vivre des choses. Et c'est pour ça que je me tâte toujours à potentiellement revenir à Montréal, potentiellement faire autre chose à côté, etc. Pas parce que j'en aurais spécialement financièrement besoin ou pas, mais c'est pour le fait de vivre des choses justement. Et donc ça me fait du bien d'entendre ça de ta part, parce que c'est la réalité, quoi.
Mais oui, 100%. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, d'ailleurs, que leur premier album, c'est le meilleur, et après, ils retrouvent jamais cette chose dans les albums suivants. Parce que souvent, au premier album, t'as la vie normale, t'as la vie que tout le monde connaît. Et après, tu deviens populaire, puis là, tu sais plus de quoi parler. Tu perds un peu tes... Un exemple d'artiste qu'ils ont très bien maîtrisé, je trouve, cet enchaînement, c'est Big Flo Oli, qui justement, au premier album, ils parlent de leur vie normale, et après ça, ils réussissent à parler de leur vie de star, mais tout en restant très accessible et qu'on peut tous s'identifier à eux.
Non, c'est vrai, t'as raison. Mais eux, ils ont un impact dans ta carrière, non?
Oui, ils ont un impact. Ils m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Aussi, j'ai fait leur première partie dans la plus grande salle, dans les deux plus grandes salles du Québec.
Wow! C'était quand
ça? C'était en novembre dernier.
Ok.
Donc ça fait quelques mois. Et franchement, je peux dire que ça a été mon moment le plus heureux de, je vais dire l'année, mais je pourrais même dire de ma décennie. Wow. Franchement, j'étais vraiment sur un nuage. Mais merci à eux de m'avoir donné cette opportunité. Et franchement, ils sont hyper bienveillants.
Ça devait être huge pour toi.
C'était huge. Surtout, c'est ma ville. T'imagines, tu fais le stade de ta ville.
Ouais.
C'est fou.
C'était au stade.
C'était... En fait, nous, on a des définitions différentes de stade, okay. Mais c'est l'équivalent de Bercy, en fait.
Ok. C'était à... C'est quoi le nom de la salle?
Ah ouais, Centre Bell.
Centre Bell, voilà. Centre Bell. Non, mais... Tu sais que pour l'anecdote, je sais pas s'ils s'en souviendront, mais j'ai... Il y a genre 4 ans, j'ai posé pour leur marque Visionneur.
Ah ouais?
J'ai fait 2 shootings.
Wow!
Pour Visionneur. Nice.
Mais tu viens de Toulouse?
Non, pas du tout. Pauline, qui bosse encore avec eux, qui manage, je pense. Tu l'as peut-être rencontrée.
Ouais.
Elle m'avait contacté Reach Out sur Instagram pour faire...
Pour faire un shoot.
Le shoot. Et j'étais en mode, wow, allez. Let's go, c'est sympa. Avec plaisir. Donc,
ok, nice.
J'ai un jeu de cartes que tu as pu voir là. C'est un jeu que j'ai créé pour des épisodes de podcast que j'ai appelé À Petit. Je t'ai demandé de te présenter tout à l'heure à toi, Petit. Et en fait, je trouve qu'on... On n'est jamais aussi doux qu'avec notre soi petit, et on n'est jamais aussi dur qu'avec notre soi maintenant, assez grand. C'est et donc vrai. Je trouve que quand on se parle à soi petit, il y a un truc de... On relativise et aussi on se rend compte de ce qu'on a fait, d'où est-ce qu'on est, et on est plus léger, je trouve. Donc j'ai préparé quelques petites questions pour toi, et je vais te demander de piocher une carte au hasard.
Ok.
Et d'y répondre. Ah ouais, ok.
Donc, raconte à petit...
Fred.
À qui tu as dit je t'aime pour la première fois? Waouh!
T'es pas obligé évidemment de dire un prénom, mais.
Tu m'as mis dans des zones.
Est-ce que tu te souviens la première fois que t'as dit je t'aime?
Oui, je me souviens. Waouh! C'était avec ma première blonde, ma première copine. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, je crois, la première fois que j'ai dit je t'aime. Et je crois qu'au début, je le pensais même pas. Mais je l'ai dit en mode genre, elle m'a dit je t'aime. Et j'ai dit. Moi aussi je t'aime. Chose que beaucoup de gens ont fait pour la première fois et qui savaient pas nécessairement s'ils aimaient l'autre personne. Et voilà. Ça m'avait fait un gros truc, je pense, pour une fois. Tu sais, en plus, moi, j'ai jamais dit trop je t'aime à mes parents. Tu sais, je suis un peu, comment on dit,
Pudique,
exactement. Maintenant, je dis beaucoup, beaucoup de fois je t'aime parce que je veux être sûr que. Ça, tu sais, on sait jamais quand est-ce qu'on. C'est la dernière fois qu'on voit des gens, donc je dis je t'aime à des inconnus.
On va sortir d'ici, il va me dire je t'aime.
Je t'aime. Cher public, je vous aime tous aussi.
C'est
ceux qui regardent cette vidéo. Non, mais sincèrement, il faut apprendre à dire je t'aime. Et je l'avais dit pour la première fois à ma copine.
Mais c'est drôle cette relation d'être pudique, peut-être un peu moins maintenant, mais d'autant s'exprimer à travers la musique.
C'est vrai, mais en même temps, comme j'ai pas mon accent, je ramène ça à on dirait que c'est pas moi.
Arrête.
Ouais, donc pour moi c'est comme un masque. C'est Fred, puis il y a Frédéric qui lui est très dissocié de la musique.
Ah ouais?
Ouais.
Comment tu décrirais Frédéric?
Je décrirais comme quelqu'un de curieux, de très contemplatif. J'aime beaucoup regarder les choses, j'aime les belles choses. Mais définitivement très différent de Fred dans la mesure où Frédéric ne veut pas être connu, ne veut pas être sous les projecteurs. Il aime être dans son truc. Moi, c'est la première chose que... On va dire... j'aime les concerts, c'est le fun, mais j'aime ça être dans mes affaires et être seul, quoi.
C'est quoi que tu préfères dans ton processus créatif? Est-ce que c'est le fait d'écrire? Est-ce que c'est le fait d'enregistrer avec des équipes? Est-ce que c'est le fait de chanter, de rencontrer pendant ta carrière? C'est quoi?
De faire des podcasts.
Je comprends, regarde. Je suis universelle, c'est parfait.
Voilà, j'adore cette partie de promotion. Mais non, sérieusement, j'aime bien enregistrer. J'aime bien. Je l'ai fait moi-même, donc
okay.
Je suis dans mes affaires, dans ma chambre. Et c'est là que je suis le plus libre. Parce qu'après les autres étapes, c'est constamment, bon, la chanson existe, tu dois faire des concerts, tout ça, ça existe. Alors que quand tu enregistres, rien n'existe. Tu pars de rien. Et ça, c'est de la pure création. L'écriture, c'est toujours l'écriture pure, c'est la création pure selon moi, parce qu'il n'y a aucune contrainte.
Je voulais revenir sur un point, hein, juste avant, tu avais dit, il faut savoir que je perds souvent le fil, parce que j'ai mes pensées qui vont partout.
Ouais.
Je pense que c'est aussi propre au créatif, ça, on a plein de trucs qui clignotent en même temps dans notre tête.
Ouais.
Et oui, dans plusieurs podcasts, je t'ai entendu justement dire que la notoriété, plutôt la paix à Montréal ou au Québec, c'est quelque chose qui t'intéresse. Enfin, tu vois, genre, t'aimes ce que tu fais, mais c'est important pour toi de rester normal et pas spécialement famous. Genre, c'est pas ton but, tu vois. Genre, à Montréal, t'as envie d'être tranquille et ouais.
Mais ouais, 100%. Mais parce qu'à Montréal, moi, je suis tranquille à fond, personne me dérange. Personne ne me demande d'autographe, c'est comme... c'est le respect ultime. Et je pense que tout le monde veut être connu jusqu'à être connu. Et après, on ne veut plus être connu, tu sais. Je suis pas connu, mais dans mon public, à moi, j'ai un public. Et me faire accoster dans le bus, des trucs comme ça, j'aime beaucoup ça. Ça fait plaisir, c'est valorisant. Toutefois, c'est pas nécessairement... c'est vraiment pas ma partie préférée, tu vois. Je préfère vraiment prendre le bus tranquille et que je me sente pas regardé et que tout se fasse. Donc oui, moi j'ai le meilleur des deux mondes parce que j'ai un public qui est français, mais je suis au Québec, donc j'ai la paix ultime.
Ça c'est dingue, ça c'est cool. Mm-hmm. Tu rentres à la maison, mais t'es vraiment à la maison quand tu rentres à la maison.
Ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs artistes dans ma situation qui ont même explosé beaucoup plus, comme Cœur de Pirate, Corneille, qui honnêtement disent la même chose, ont le même discours de Québec c'est la paix, donc ils rentrent chez eux, ils se font pas déranger, mais derrière ils ont une carrière ici.
Et c'est vraiment vraiment fou le fait, cette proximité qu'on peut avoir avec les artistes à Montréal. Je pense à sur le plateau plusieurs fois, j'ai croisé de loin Charlotte Cardin, tu vois.
Ah ouais,
en
ouais.
Train de boire son café, ça me serait jamais venu à l'esprit d'aller la voir et de, tu vois, en mode ça fait partie du collectif d'être comme ça. Et je me demande si c'est pas parce que c'est tellement petit le Québec, il y a tellement peu de gens, t'as beaucoup de chance en vrai de croiser des gens, et donc c'est un peu, c'est pas banal, mais il y a ça plus la notion de respect, enfin il y a une proximité, tu vois, quand même.
Ouais, mais il y a aussi le fait que, tu sais, le plafond est plus bas, tu sais, pour nos artistes. Des gens comme moi, on a quand même une limite à percer. On perce dans un marché de 8 millions de personnes, donc on ne vient pas nécessairement, on se promène pas en jet privé quand on a percé. Je crois que les artistes français non plus, mais je veux dire, il y a quand même des grosses limites. Donc, Charlotte Cardin, qui est une artiste internationale, c'est peut-être autre chose, mais on va dire par exemple, je prends l'exemple de, je sais pas si tu connais Loud,
oui.
Qui est un artiste québécois qui on va dire, qui a atteint la dernière étape, l'ultime étape de popularité au Québec. Ça reste qu'une vie plutôt normal, tu sais. Je ben pas. l'art de respect si t'as un jet privé dans ta cour, je le sais pas.
Moi, je veux pas de jet privé, mais...
Tu veux pas de jet privé? Non, c'est pas populaire, c'est pas des jets privés. Mais à moins qu'il soit électrique, là.
Why not?
Mais c'est ça, donc on va dire, je sais que sa vie est pas nécessairement... Et donc, ça impressionne un peu moins, et peut-être que je vais moins porter à comme, avoir une photo. Alors que si je croise, je sais pas moi, Bradley Cooper, je sais que, putain, ce mec est genre tellement connu que j'ai peut-être envie d'avoir une photo, mais...
Je vois ce que tu veux dire.
Mais est-ce que tu vois, par exemple, si t'avais vu Charles Cardin à Paris, t'aurais été plus été porté à prendre une photo, genre avec, à la déranger?
Je pense pas parce que, justement, je pense que Montréal me va si bien parce que je déteste déranger, et c'est un peu un problème dans mon métier, parce que du coup, je sais pas si je passe à côté d'opportunités, mais tu vois, comme j'ose pas déranger... Je pense que je l'aurais pas fait, mais aussi je pense que c'est grâce à mes années à Montréal, tu vois. C'est un truc qui est...
Ça t'a apporté une tranquillité, un respect.
C'est en moi.
Ah waouh. Mais je le sens en plus.
Ouais.
Je crois que je le sens.
Bah tu me diras à la fin du podcast. Je t'en prie, pioche une deuxième carte. Oh, est-ce que tu peux chanter... Est-ce que tu peux chanter à petit Fred sa chanson préférée de quand tu avais 5, 10 ans ou 15 ans?
Petit Fred, je me souviens que ta chanson préférée c'était... Non, attends, c'était quoi? C'était... Je pense que c'était Alléluia.
Ah ouais?
Ouais, mais je maîtrise tellement peu l'anglais.
Ah ouais?
Non, je suis nul en anglais.
Okay.
Et lui petit là, il est encore plus nul, mais alors là, exécrable. Donc, The four, the fifth, the minor four. Et je connais pas. Non, avec chanter en fait.
Je la reconnais pas.
Alléluia! Ouais.
Alléluia,
Alléluia. Voilà, on en
ce podcast devient...
Ça devient bizarre cette scène.
Hors contexte.
Voilà, t'as pas le temps.
Trop mimi.
Yeah.
Peut-être que tu m'as fait chanter, mais... Enfin, petit inside. Quand j'étais jeune, j'ai fait des covers de Cœur de Pirate.
Oh.
Sur YouTube.
Oh mon dieu. Ok, mais à toi de chanter, alors... Bah allez.
Franchement.
Comme des enfants.
Et en plus,
il m'aime encore.
J'aimais tellement cette chanson. Bref, c'est pas mon. Si tu veux un jour, tu m'intervieweras un podcast et on.
C'est bon.
Ça. Je te laisse piocher une autre carte.
Raconte à toi petit tes angoisses actuelles. Ça c'est deep.
C'est deep, mais en plus, j'ai relevé que ouais, t'en parles parfois dans tes chansons.
Mm-hmm. Oui. Moi, j'ai à cet âge-là, à 10 ans. J'ai eu ma première crise d'anxiété. Et ça a changé ma vie. Après, avant 10 ans, je connaissais pas ça. Mais après 10 ans, je connaissais ça. Je savais c'était quoi une crise d'anxiété. Tes anxiétés aujourd'hui, c'est... J'ai vraiment du mal avec... comment dire j'ai beaucoup d'anxiété déjà. Mm-hmm. Ça m'arrive comme beaucoup de gens de ma génération. J'ai déjà, premièrement, une certaine anxiété de performance reliée au fait de toujours être le meilleur dans tout ce que je fais, toujours être bon. J'ai peur.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu sais, nos métiers, c'est des métiers qui font constamment des montagnes russes. Il y a un mois où ça va être bien, tes résultats vont être bons. L'autre mois, ça va être moins bon. Donc, t'es aussi accro aux chiffres, aux statistiques et ça crée de l'anxiété.
100%.
Mais j'apprends de plus en plus à laisser aller ces chiffres-là. Tu sais, ne pas regarder combien je fais de likes, combien je fais de vues, combien je fais de... Juste d'être comme, ok, je publie du contenu, puis après, je ferme ça, puis je passe à autre chose. Mais mes plus grosses anxiétés présentement, je pense que c'est je vis beaucoup de choses loin de chez moi. J'aime pas être loin de chez moi. Et ça me fait peur en quelque sorte. Tu sais, là, je prépare une tournée en avril qui est en France, en Belgique puis en Suisse. Donc, ça me fait peur, je pense. J'ai peur de changer trop ma vie normale, on va dire. Et de m'écarter de certaines personnes aussi. Voilà.
Je te comprends tellement.
Ouais.
Ouais. À la base, moi, je viens de Bruxelles en plus.
Ok.
Quand je suis partie à Montréal, je me suis vraiment dit, mais genre, qu'est-ce que je fais ? À l'époque, j'avais un copain qui était à Bruxelles, mes parents, mes grands-parents, mes amis. Et je suis partie à Montréal à 18 ans et je me suis dit genre, mais finalement, pourquoi, tu vois ?
Ouais.
Donc je comprends cette angoisse de vivre des choses loin de ses proches aussi, de ne pas savoir exactement comment est-ce qu'ils vont, de ne pas pouvoir être là à 100% pour eux. Et puis on a des carrières où en fait, je trouve qu'on se focus aussi beaucoup sur nous. Et moi, j'ai cette peur-là parfois de me dire, est-ce que je regarde assez genre comment mes proches vont, ou est-ce que je suis trop focalisée sur...
Tellement, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est très tout axé sur notre nombril, sur notre petit monde. Et même les autres qui s'intéressent, on va dire, beaucoup plus à nous que nous nous intéressons à eux. Et c'est pas nécessairement par choix, mais parce que, bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai fait un podcast, j'ai fait de la promo, j'ai fait des concerts. Je vais avoir des choses à te raconter. Alors peut-être que toi, t'as fait des trucs que tu juges peut-être plus normal, mais en fin de compte, ça s'équivaut.
Ouais, non, c'est 100%. Il y a un truc un peu de, pas d'imposteur, mais de ça me fait me sentir pas confortable. Et l'erreur que j'ai fait du coup pendant tout un moment, pendant justement mes études à Montréal et même maintenant en vrai, mais j'évite de le faire parce que je me suis rendu compte que c'était pas bien. J'ai arrêté du coup de parler de mes choses à mes amis parce que je me disais que c'était trop, tu vois. Dès que je les revoyais, dès que je retournais à Bruxelles, je leur disais, ah, j'ai fait ça, j'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça, regardez ce qui... Et en fait, à la fin, quand je rentrais chez moi, je me disais, mais c'est too much. Alors que mes amies, elles vont à l'université, elles sont en études de médecine, études de droit, et j'avais ce truc de... Je culpabilisais. Ma vie n'est pas mieux que la leur. Au contraire, je suis hyper admirative d'elles et elles m'inspirent. Mais d'un autre côté, je suis leur mode, genre. Et donc, j'ai arrêté. Et je pense que ça a été une erreur. J'ai cassé un petit truc dans mes relations amicales au moment où je me suis renfermée sur moi pour arrêter de leur projeter tout ce que je faisais, tu vois.
Est-ce que t'avais peur un peu de passer pour prétentieuse? Ouais.
C'est vraiment ma plus grande hantise. J'ai tellement pas été éduquée comme ça.
Ouais, dans l'humilité. Mais moi aussi, je suis pareil. J'ai vraiment, avec mes amis et tout, moi, je parle de mes trucs uniquement sans me poser des questions. Parce que mais ça sonne automatiquement comme une prétention, même si ce que j'ai fait dans la journée, je reviens d'une tournée là, j'ai envie d'en parler à mes amis, mais en même temps, ils vivent tellement pas ça. Puis c'est quoi, je me la ramène en me disant je reviens de tournée, j'ai rencontré telle personne, et, comme tu le dis, ça sonne prétentieux, même si c'est ce qui est arrivé, puis j'ai juste envie de le partager. Mais t'as raison, il faut continuer à en parler, mais je pense qu'il faut doser aussi, il faut savoir quand, ok c'est bon, là t'as...
Ouais, faut savoir, puis il y a des amis qui ont des journées plus cool que d'autres, parfois. Je pense qu'il faut savoir aussi le placer au bon moment, quoi. En fait, quelqu'un qui est sur son hit, qui est aligné avec ce qu'il, elle et elle veut faire, en mode, je suis à la fin de ma journée, cette personne-là est contente, et donc elle va avoir hâte que tu lui racontes ta journée, et elle va pas sentir, tu vois, un déséquilibre.
Voilà, c'est très bien dit.
Je vais te laisser prendre une...
C'était quoi ta honte un peu cachée? Genre le truc que tu kiffais, mais que tu n'osais pas dire à tes copains dans la cour de récré. Est-ce que tu veux bien raconter à toi, petit, ta pire honte d'adulte?
Soit l'un, soit l'autre. Soit tu racontes ta pire honte d'adulte à toi, petit, donc en te parlant à toi, petit.
Ok.
Ou alors, tu nous racontes, c'était quoi ta honte cachée quand t'étais plus jeune?
Ok, ma honte, ben...
c'est si deep que ça?
Non, mais je réfléchis parce que je veux pas dire n'importe quoi. De quoi j'ai eu honte? J'ai eu honte longtemps... Non, je reviens au Pokémon, ok?
Ouais, vas-y, go for it!
J'ai eu longtemps honte de ce que j'aimais. J'ai longtemps aimé les choses qui n'étaient pas de mon âge. Donc par exemple, j'étais adolescent et j'adorais encore les Pokémon. Et tout le monde avait lâché les Pokémon. C'est fini là, on avait 15 ans et moi c'était mon truc. Et j'ai eu honte de ça longtemps. Puis même les animés, les trucs pour enfants, pour moi, c'est... J'ai un cœur d'enfant, tu sais, j'ai travaillé aussi, mon seul métier dans la... Ma seule job avant de faire de la musique, c'était animateur d'anniversaire d'enfants.
Trop nice!
Donc j'étais une mascotte, j'étais habillé en super-héros, et je faisais le tour des anniversaires. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rappé mes premiers textes.
Non.
Ouais.
À des anniversaires devant des enfants de quel âge, s'il te plaît?
Oh, de 8 ans à 6 ans, là, c'était...
Tellement
jeune.
Tu as des archives de ça? Non. Oh, ça aurait été excellent.
En fait, oui, j'en ai une. C'est très très drôle. C'est j'avais fait un remix de Baby Shark où je rappe et c'était encore sur Instagram il y a pas si longtemps dans mes anciennes vidéos, mais je l'ai archivé.
Non.
Mais je te montrerai
si
faut.
Mais on la veut. Je veux la voir.
Donc je faisais le remix de Baby Shark parce que ça pensait de faire Baby Shark devant les parents, mais j'ajoutais mon couplet Et les gens étaient comme, ouais, les enfants, ils comprenaient rien, mais ils kiffaient.
C'est tellement smart.
À vous ?
Ouais.
Yo, c'est comme ça, là. J'ai appris comme ça là, dans les cours de récré, comme ça. Assumer les... Puis maintenant, j'assume, tu vois. Première chose que je demande dans mes loges à des concerts, c'est des paquets de cartes Pokémon.
Vraiment ?
C'est le numéro 1.
Mais t'aurais dû me le dire ? Je t'aurais ramené un paquet de cartes Pokémon ?
Mais oui, mais Léa, voyons donc. Non, mais les artistes, ils demandent genre du cognac, des paquets de clopes, des trucs. Moi, c'est... Hop là, tu me fous le booster en nouvelle génération.
Il faut mon petit paquet juste avant d'entrer sur scène, il faut que j'ai ma petite dose d'adrénaline de jouer
voilà,
sur le paquet.
Exact. Si la pioche est bonne, ça veut dire que le show va être bon.
J'adore ta vision, j'adore. Il y a une question d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Tu sais quoi, je vais tricher, je vais y regarder.
Oh.
Il y a une question, j'avais envie de te parler de ton look. Parce que t'as quand même une chouette coupe de cheveux.
Viens, on parle de coupe de cheveux.
Vas-y, viens, on parle de coupe de cheveux.
Des fois il faut y aller, il faut en parler. C'est probablement la question la plus populaire qu'on pose. Tes cheveux, pourquoi ?
Depuis quand ?
Depuis mes 16 ans. Je suis arrivé une journée à l'école avec ça. Ok, dis-toi que du jour au lendemain, je passe d'un gars sans lunettes. Ok, j'avais pas de lunettes. J'avais une coupe de cheveux mi-longs. J'avais pas de coupe en gros, c'était vraiment genre des cheveux éparpillés. J'arrive le lendemain, j'arrive comme ça. Alors, tout le monde est choqué. Tout le monde rit de moi. Tout le monde se moque. Mais, attention, au fil des jours qui passent après cette adaptation de coupe de cheveux, les gens commencent à kiffer, toi. Ils commencent à dire, mais en fait, ça va, c'est quand même cool. Et même moi, je commence à prendre la confiance avec la coupe de cheveux parce que, oublie ça, la première fois que je suis arrivé comme ça, j'avais honte, là. J'étais pas bien, là. Puis finalement, je commence à kiffer à fond, puis je me rends compte que c'est moins d'entretien, des cheveux comme ça. Et surtout, dans la musique, ça m'aide. Parce que c'est identifiable. Tu sais, je peux juste faire un trait de crayon, genre un champignon avec deux lunettes. C'est Fred, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça.
Non, c'est vrai.
Donc, c'est stratégique, c'est facile à entretenir. C'est la meilleure coupe de cheveux du monde, je trouve.
Je t'en parle parce qu'en plus, j'ai écouté, je pense, ton podcast. Mais je sais pas, encore une fois, je sais plus si c'était sur lequel. Je suis trop nulle à ça. Mais pour un break ou à l'amour, justement, tu disais que si t'avais un truc à recommencer, ce serait quand même peut-être pas la coupe des cheveux. Parce que justement, c'est... Est-ce que t'es stuck avec cette coupe des cheveux ?
Ah, totalement. Je suis complètement coincé avec ça. C'est fini. Je vais mourir comme ça.
Papy Fred avec sa coupe de cheveux.
Papy Fred, cheveux gris, mais hop là, coupe champignon. Non, mais sincèrement, je regrette pas. Je dis ça parce que je trouve ça drôle. Peut-être que j'aurais choisi autre chose, mais tu sais quoi ça ? Je pense que ça m'a ouvert des portes. C'est bizarre, là, mais oui. Puis franchement... Je trouve ça bien, maintenant je vis bien avec cette coupe de cheveux. N'hésitez pas à faire ça. En plus, ça va revenir à la mode, je crois, un jour.
Bien sûr, mais bien sûr.
On commence là, il y a Pierre de Mort aussi que ça.
C'est vrai, ben il est belge en plus, non ?
Il est belge, je pense qu'il est de Bruxelles, pardon. Au Québec, par contre, il y a vraiment peu de personnes qui ont cette coupe de cheveux. Souvent, je peux reconnaître sur Internet quelqu'un qui me découvre québécois ou français, parce que le québécois va directement parler des cheveux, va être comme... C'est quoi cette coupe de cheveux là, Asti ? Puis le français va être comme putain, il ressemble à Victor.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est
oui,
les deux.
C'est ça.
Oui, Victor, oui, je sens.
Oh, j'adore. Ok, génial. Parce qu'il y avait une des questions, c'était est-ce que petit Fred a une erreur capillaire ?
Oh.
Laquelle ? Et je trouvais ça drôle de la mettre pour toi, même si c'est pas une erreur capillaire, parce que je pense que comme tu l'as dit, ça fait partie de ton identité et ça te démarque justement encore plus.
Ouais. Ouais, c'est vrai, merci. T'aimes bien toi ?
Ouais, franchement, oui.
Cool.
Bah, je te verrais difficilement sans du coup.
Ouais.
Tu vois, parce que ça fait partie pour moi de Fred. Est-ce que Frédéric se coiffe différemment ? Est-ce que, genre, quand t'arrives à Montréal, tu mets tes cheveux différemment ?
Non. Il y a pas vraiment beaucoup d'options avec ça, je te dirais. C'est pas mal champignon ou champignon, là, c'est.
Non, mais.
Mais je les entretiens pas, c'est ça qui est cool. Vraiment, tu te réveilles, c'est comme ça. Hop là.
Cool. Même avant un concert ?
Même avant un concert.
Là, j'aimerais passer à un petit tag. J'ai des questions pour toi. À l'ancienne sur YouTube, il y avait un tag qui s'appelait La Chanson Qui. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça avec ton nouvel album. C'est ton troisième ?
C'est mon troisième. J'ai sorti... oui. En plus, j'ai sorti une mixtape. Enfin que c'est mon...
Tu peux nous les dire ?
Quatrième projet. J'ai commencé avec Personne ne touche le ciel, premier album. Astronaute, deuxième album. Demain fera mon troisième album.
Ok. Et c'est lequel ton préféré ?
C'est le dernier. C'est le nouveau.
Quelle est la chanson que tu as hâte de chanter sur scène ?
c'est Le Stade. Mais je l'ai déjà sorti, c'est parce que c'est une chanson du nouvel album, mais elle est déjà sortie parce que c'est la chanson de show par excellence. J'adore cette chanson. En plus, les gens, ils la kiffent, ils l'aiment beaucoup. Donc, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je la fais, genre, les gens, ils virent fous. Ils chantent tellement fort, ça me prise les oreilles. J'adore.
Elle est fun, elle est pop. T'as envie de danser, t'as envie de la mettre le matin, genre, elle te met de bonne humeur.
Merci. Ben, c'est exactement l'objectif de cette chanson. Et ça parle encore de rupture. Je m'étais fait briser le cœur la veille, tu vois, c'est logique.
Bah voilà. La chanson qui est la préférée de tes parents.
Je dirais... mon père, c'est aussi Le Stade. C'est drôle parce que ça correspond pas à mon père, mais il aime ça. Mais sinon, mes parents aiment bien... En fait, mes parents, je fais beaucoup de chansons qui parlent, qui sont tristes. Fait que je sais pas si mes parents aiment tant que ça l'album, parce que l'album est triste. Puis ils veulent pas entendre leur fils être triste, je pense. Ils veulent que je sois heureux. Mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Ghibli, dans le nouvel album, qui est heureuse. Et c'est la seule et la première chanson que je fais qui est purement joyeuse et qui témoigne d'un moment de vie où je me sens bien. Et franchement, c'est difficile à écrire ce genre de chanson et je pense que c'est leur préférée, pour cette raison.
Quelle est la chanson qui a été la plus difficile à écrire?
Mauvais Rêve, qui est une chanson qui parle de mon anxiété.
Ouais, d'ailleurs dans cette chanson tu dis « C'est vrai que je pleure beaucoup ». Est-ce que tu pleures beaucoup?
Non. Tu vois que je veux dire ça devant la caméra?
Je trouvais ça chouette et assumé. Et en même temps, ça me permet de rebondir sur autre chose parce que dans une de tes interviews, tu parles de santé mentale. Moi, comme je t'ai dit, pendant un de tes podcasts que t'as fait, tu parles de santé mentale. Moi, j'ai étudié justement en neurosciences cognitives et c'est un sujet que j'aborde souvent sur Simple Caféine. Et t'as dit aussi que t'allais voir un ou une psy.
Oui, à fond. Ça m'a beaucoup aidé. De suivre une thérapie, je le vois encore. Dans mon anxiété, c'est d'en parler puis de réaliser des choses, c'est tellement important. Puis non, je pleure pas beaucoup parce que j'ai comme un blocage, mais de voir un psy, c'est comme aussi efficace que pleurer, parce que pleurer, ça aide là. Tu sais, des 100%. Fois évacuer là, ça fait du bien. Puis l'anxiété, c'est comme quelque chose qui reste dans le ventre, puis il faut trouver une façon de sortir, tu sais. Puis il y en a qui pleurent, puis il y en a qui parlent, puis il y en a qui voient des psys, puis moi je fais un peu de tout, puis ça m'aide.
Cool. Ça fait depuis combien de temps que tu vois un ou une psy?
Ça fait 6 mois.
Cool.
Ouais.
C'était ta démarche ou...
C'était ma démarche. Je voyais un psy aussi quand j'étais très très jeune. Puis ça, justement pour mes problèmes d'anxiété, donc quand j'avais 10 ans. Donc vraiment ça m'a fait rentrer un peu dans le monde de la thérapie. Puis franchement, ça m'a aussi banalisé le truc de comme c'est correct, j'ai déjà vu un psy quand j'étais jeune. Ça s'est bien passé, tout va bien. Donc, je sais pas, en France, mais au Québec, on valorise beaucoup la thérapie. Il n'y a aucune honte à faire des démarches et de suivre une thérapie.
Bah ici, de plus en plus, je trouve que chez l'homme, c'est encore tabou. Je pense que je ne serais pas la seule à dire ça. Justement, toi, en tant que garçon, en tant qu'homme, genre, comment est-ce que tu vois dans la société d'aller voir un psy?
Ben, au Québec, c'est moins pire. C'est vraiment... Tu peux en parler. Toutefois, je dois avouer que c'est, quand on est un homme, parler de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. On a moins été avec mes amis. C'est rare que je vais être comme « Hey, c'est dans si je suis malheureux » ou « C'est dans si ça va pas vraiment ». C'est en vrai qu'il y a comme un blocage. Je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais ça relève probablement d'une masculinité un peu toxique que beaucoup de garçons ont, là.
C'est intéressant cette différence entre le... Moi, justement, j'en parle souvent avec mon copain. Moi, je suis beaucoup dans les émotions. C'est-à-dire que vraiment, toute ma journée, je suis comme ça. Et évidemment, moi, je m'exprime avec les larmes. Genre, quand je vois quelqu'un d'heureux, je vais pleurer. Quand je vois quelqu'un de triste, je vais pleurer. Et je suis beaucoup comme ça. Versus lui est beaucoup plus comme ça. Je ressens quasiment aucune émotion.
Ouais.
Chez lui. Et je trouve ça fou, cette différence. Après, faut pas la généraliser. Mais je me demande si, justement, c'est vraiment des différences biologiques ou si c'est la société.
Mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Biologiquement, tu le sais mieux que moi. Mais société, moi, on est moins porté à montrer. Même qu'on est heureux, hein. De dire à un homme, yo, je suis heureux, il y a quelque chose de... Ah, c'est une mise à nu un peu.
Ah ouais?
Ouais. En tout cas, moi, je... Tu sais... Ah, il y a quelque chose, tu veux pas nécessairement le dire. Même si t'es heureux, c'est positif, là. Y a rien, aucun mal à avoir à être heureux. En tout cas, je sais pas si les hommes vont relate, vont comprendre ce que je dis, mais en tout cas, moi, je me sens des fois.
La chanson qui te ferait penser à ton amoureuse, à ta bien-aimée.
Je dirais Ton Prénom, qui est une chanson très sensuelle, très amoureuse.
Et ta préférée, c'est le stade.
Non, c'est pas le stade, mais bon guess. Non, le stade, j'avais jamais fait un concert, mais elle commence un peu à me... Ça, je l'ai beaucoup entendu. Je me laisse à y aller. Non, je dirais que c'est... je pense que c'est Allô la Lune, qui est la première chanson de l'album. Et c'est une chanson qui a été écrite genre une semaine près de la remise de l'album. C'était en mode, ok, on en fait une dernière, et finalement, c'est ma préférée.
Je l'aime beaucoup.
Ouais. Cool. Nice.
Et je vais aborder un petit truc avec toi. Que j'ai relevé dans une de tes chansons qui ne m'a pas beaucoup plu. Non, c'est pas vrai.
Oh.
Dans Les Papillons, tu dis quand je te regarde dans les yeux, j'ai plus les papillons que j'avais quand j'étais amoureux. Et en vrai, dans mon dernier épisode de podcast, je parle justement de ces papillons parce que c'est comment moi je le ressens. Et je me suis rendu compte que les papillons, pour moi, c'était un stress, d'anxiété, d'adrénaline, et c'était pas vraiment de l'amour. Genre pour moi, les papillons, c'est ce que tu peux ressentir au début quand t'as un petit peu d'excitation, de tu connais pas encore la personne, etc. Mais pour moi, être amoureux, c'est plutôt avoir un espèce de calme au niveau de ton système nerveux, tu vois, d'être juste serein quand il y a la personne. Et pour moi, avoir des papillons dans le ventre, ce serait un red flag dans ma relation. Ça voudrait dire...
Ah ouais ?
Ouais. Parce que ce serait du stress. Les fois où dans mes relations j'ai eu des papillons justement, c'était mes relations qui étaient comme ça quoi. Où je savais pas quand est-ce que... J'étais pas sûre si la personne m'aimait. J'étais pas dans une sérénité, dans un calme intérieur, tu vois.
Ouais. Et ça paraît que tu étudies en neurosciences. Non, c'est très intelligent ce que tu dis présentement. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que les papillons c'est une sorte de stress. Mais moi je le sens comme une excitation aussi de comme... C'est excitant, t'es avec quelqu'un qui te dit quelque chose qui se passe, là. Il y a un enjeu. Là. Après, les papillons, ça porte. Effectivement, il faut pas que ça reste tout le temps non plus. Là. C'est vrai, là, sinon c'est chiant. Là. C'était toujours ce truc. Je pense que les papillons, c'est sain, les 5 premières dates. Après, s'il y a encore des papillons après, c'est que vraiment, c'est comme un peu trop.
Et pour moi, après, ça se transforme justement, tu vois, en de l'amour. Et l'amour sain. Pour moi, c'est l'amour qui est... Vraiment, ça t'apaise.
Il y a une stabilité un peu dans ce que tu dis, genre... L'amour, c'est stable pour toi, c'est pas...
Bah, tu vois, justement, je trouve que dans... La vie de tous les jours est déjà assez stressante. Dans les rencontres, dans la performance, etc. Que moi, quand je suis avec mon partenaire, j'ai juste envie d'être sereine. Et que si ma relation m'apporte justement des espèces de trucs de stress, pour moi, c'est mauvais signe. Quand mes amis, tu vois, elles me parlent de leurs relations qui font comme ça et tout... Je les supporte évidemment, je veux qu'elles m'en parlent. Mais il y a un côté de moi qui a envie de leur dire, mais genre, c'est pas normal. Enfin, c'est genre, on romantise beaucoup les relations justement qui te font des.
Ouais, c'est vrai.
Mais en soi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment de l'amour, tu vois?
Mais ça dépend de quelle vie aussi. Parce que dans ce que tu dis, c'est que toi, t'as une vie qui est très stimulante. Puis que quand t'arrives dans ton jardin de l'amour, t'as envie d'avoir une stabilité puis une paix.
Ouais.
Alors que moi j'ai des amis où leur vie professionnelle est plutôt plate et peu stimulante et que quand ils arrivent dans l'amour, ils veulent avoir un truc de... Oh, ils veulent sentir quelque chose. Donc peut-être qu'à ce niveau, ça dépend vraiment de quel est ton profil et...
C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça.
Ouais, mais moi je suis plus comme toi par contre. Je suis plus... j'aime quand c'est stable, j'aime quand c'est posé, mais...
Les papillons par contre, tu dois les avoir avant tes shows. Non, avant de passer sur scène.
C'est pas des papillons, c'est genre une boule de stress. c'est pas aussi agréable que des papillons.
Je comprends.
Ça pique un peu.
C'est quoi ton adresse préférée à Montréal? C'est vraiment tellement random cette question. C'est quoi genre ton lieu préféré?
C'est la grande bibliothèque de Montréal. Je suis un grand fan de bibliothèque, j'adore. Retrouvez-moi dans les bibliothèques de votre quartier.
Je peux même pas t'en conseiller une à Paris, j'en connais pas.
De toute façon, je pourrais même pas être membre.
Ah, c'est vrai.
Moi, je suis membre là, à la grande bibliothèque.
Ah ouais?
Bien sûr.
Ok.
Mais j'ai eu un truc... Ouais, t'aimes bien les bibliothèques, toi?
Bah, il y a un truc de très apaisant, c'est vrai.
Ouais.
Bah, moi, ce que j'aime faire, c'est aller acheter des livres. Je trouve que le process d'aller acheter des livres est cool.
Ouais, c'est vrai.
Je les lis pas tous, mais je suis contente de les avoir et ça m'a fait du bien d'aller les chercher, tu vois.
quelque chose de très satisfaisant d'acheter des livres. Tu sens que tu as fait une bonne action.
Ouais, exactement. Et ton adresse préférée à Paris?
Alors là, je sais pas, parce que je suis pas allé là souvent. Je suis pas souvent. Mais je vais dire Universal, c'est la seule que je connais.
C'est bien dit. C'est bien dit. Ce serait quoi ton featuring de rêve?
Ça serait... J'en ai beaucoup, mais je dirais... Aurel San, ce serait fou. Mais je serais trop impressionné. Je pense qu'il me battrait en feat à plat de couture, donc... Mais peut-être un jour.
Aurel San?
Ouais.
T'en aurais un autre?
Je vais te dire un Québécois qui a perdu la vie récemment, mais Karim Ouellet, que j'ai beaucoup, beaucoup... qui m'a beaucoup inspiré, qui est un chanteur à chanson guitare. J'adore.
Ok, intéressant. Ça m'a fait penser, mais genre vraiment random. Je te raconte des anecdotes sur ma vie comme ça qui n'ont aucun sens. J'ai rencontré Nekfeu.
Oh!
Mais je savais, je ne me rendais pas compte de l'ampleur que c'était pour un shooting photo, enfin, d'une collection qu'il avait fait avec une marque belge. Et c'était un couple qui m'avait invité en mode tu veux bien nous aider pour les prototypes et tout. Et moi j'étais en mode bah ouais, grave et tout. Et elle m'avait dit Ken sera là et tout. Et j'étais en mode ok. Okay. Et donc j'arrive chez eux et tout, puis après lui il arrive et on passe l'après-midi ensemble et je m'en rendais juste pas compte. Enfin même maintenant je le reverrai, je pense que je me rendais pas compte. Je me rends pas compte de...
L'ampleur de... L'ampleur. Mais surtout que il est rare. C'est ça, c'est pas un truc accessible de... Et il était gentil, c'était cool.
Super gentil, mais super gentil et je pense que c'est aussi... Pour ça c'était tellement naturel, je te montrerai si je retrouve...
Ouais, t'étais pas impressionné parce que tu...
Mais je me rendais pas compte.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, genre, je suis pas...
C'est mieux, c'est mieux ça.
Oui.
C'est beaucoup mieux ça.
Ouais, 100%. Voilà pour l'anecdote, je te montrerai la photo. Et souvent quand j'en parle, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment lui? Puis après, je revois la photo et je suis en mode, ouais, je crois que c'était lui.
Tu me le montreras, je vais te dire.
Ouais, tu me diras si c'était lui ou bah, peut-être que c'était. Ouais,
c'est déjà le sosie. Oh, mais sur Elsa, c'est encore mieux, ouais. Je...
Qu'est-ce qu'a le Québec que la France n'a pas?
De la gentillesse. Non, je dirais, mais oui, je dirais un genre de respect, de un genre de... Est-ce que je vais parler de l'anecdote du taxi? Non, mais tu vois, par exemple, on était dans un taxi hier, puis le chauffeur, il parle à son avocat, à son avocate, et au moment de raccrocher, il fait juste lâcher un salope.
Tu te fous de
moi. Je te jure! Et genre, l'avocate, elle était super gentille avec lui, c'était chill, il preuve à la pure, on a un témoin ici. Et donc, j'étais genre, mais non seulement... Non, c'est horrible. Jamais au Québec, jamais on a ça, là. Jamais t'as un chauffeur de taxi qui dit ça. Devant des clients comme ça, là, aussi. Là. Ou juste au restaurant, tu sais, ils vont être polis. Hier, on était au restaurant et directement, c'est genre... bon, allez, faut se dépêcher parce qu'on ferme. Allez, puis c'est vraiment en mode... Yo, on est là, on a un service, c'est censé être chill et tout. Enfin, quoi.
Mais ça me fait penser à un truc... Occupation double.
Ouais, je
sais. Tu te souviens ou pas le français qui avait fait une télé-réalité en France, je sais plus qui c'était, je me souviens plus. Il était pas si connu que ça en France, mais il est arrivé au Québec pour jouer à Occupation double. Et en fait, il est arrivé avec tous les clichés de la télé-réalité française, c'est-à-dire les insultes sur les femmes, l'agressivité, toujours vouloir être...
Ok.
Et il s'est fait démonter par le public québécois, il s'est fait démonter par l'émission aussi, si je dis pas de bêtises. Occupation double avait coupé des scènes.
Ok.
C'était vraiment genre, ça a traumatisé le Québec.
Mais ça me surprend pas, hein. Mais même pour l'anecdote, par exemple, je me rappelle plus, est-ce que c'est à The Voice ou... Non, ou peut-être c'est à Occupation Double, justement. Dans la vraie version, on est censé révéler ceux qui seront éliminés directement dans leur face. Donc la personne qui élimine le candidat doit lui dire « on t'élimine ». Nous, on est tellement gentils, on veut pas provoquer, qu'on n'ose pas faire ça. Donc on a séparé les éliminations, puis les éliminations se font juste comme l'animateur dit qu'il est éliminé, puis that's it.
C'est vrai?
Ouais. Puis il y a plein de petites twists comme ça dans les versions d'émissions québécoises qui sont plus gentilles, plus respectueuses pour les candidats, puis pour le public. Parce qu'on aime, même le public aime pas ça voir des choses irrespectueuses. Ça nous intéresse pas, alors que vous, je vois la télévision, je vois des... Des Marseillais qui sont constamment en train de s'insulter avec des blagues misogynes et trucs comme ça, je suis comme waouh!
Sans voir. Et qu'est-ce que la France a que le Québec n'a pas?
De la bonne nourriture.
Ah ouais?
Ouais, mais après le Québec a de la bonne nourriture, mais France, c'est ma table. J'avoue que tout est.
Je veux pas aller dans les clichés, mais la banquise elle me manque quand même, quoi.
Ah oui! La banquise, c'est probablement le truc le plus français qui... le plus français de Montréal.
Salade Mendy's, c'est tellement pas québécois.
Mais écoute, t'es-tu allé dans des endroits plus québécois que ça?
Parce
que
les petits cafés de quartier me manquent.
Ouais, je comprends.
Et la gentillesse des cafés de quartier me manque. Et les longues après-midi au Parc Laurier.
Ah oui, ouais, c'est un super parc.
Ouais, voilà.
Ouais, je suis fan aussi.
Bah écoute, merci beaucoup.
Et merci à toi, là, c'est super intéressant.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Une bonne sortie d'album et une bonne tournée en avril.
Waouh.
Merci.
Avec plaisir, merci à toi. Et bon séjour à Paris.
Yes.
Voilà. C'est la fin de cet épisode de podcast. Qu'est-ce que j'ai aimé ce moment que j'ai passé avec Fred. Franchement, c'était pétillant, c'était chouette, c'était... Je suis trop contente. Encore une fois, désolée pour l'audio. Vous le savez, c'est pas mon habitude, c'est la première fois que ça m'arrive. Et évidemment, ça devait arriver quand j'étais chez Universal, en train d'enregistrer un épisode de podcast avec un artiste trop cool. Cependant, j'ai vraiment tenu à publier cet épisode de podcast pour le moment qu'on a vécu. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, je veux vos retours. Si vous me dites, Léa, la prochaine fois qu'il y a un problème de son, publie pas l'épisode, je le publierai pas. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Si vous êtes jusque-là, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Passez une bonne semaine. Ah oui, attendez. Allez streamer le nouvel album de Freds. Demain, il fera beau. Sur toutes les plateformes. Envoyez-lui de la force. Bisous. SCS, et à lundi prochain, dès votre réveil, 5h30 du matin, sur Simple Caféine, sur toutes les plateformes. Bye!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.